Nordanais, quand des chrétiens repèrent dans la tradition, dans l'histoire, d'autres églises chrétiennes, des choses qui leur manquent, c'est ce que vous disiez dans notre précédent entretien, et se disent, ça peut être une richesse pour nous ça, parce que bah, nous on l'a pas ça, on l'a plus, ou eux ils ont pensé à ça, nous on n'y avait jamais pensé. Est-ce que ça signifie qu'il faut se laisser convertir par l'autre? Est-ce que c'est finalement aussi un petit coup de canif dans ce à quoi on croit, mais bon, on fait des concessions, quoi.
Oui, c'est le terme que vous avez utilisé est complètement juste, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est une vraie conversion. Mais ce n'est pas une conversion à l'autre, c'est une conversion à l'Évangile, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire on est ensemble dans une recherche de vérité et de fidélité à l'Évangile.
Il ne s'agit pas de convaincre l'autre.
Non, 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 surtout pas. Parce que quand on est dans cette démarche-là, ça veut dire qu'on se sent supérieur à l'autre. Vous allez dire, c'est quand même très difficile, parce que quand on a des convictions, c'est qu'on y croit. Et donc, si l'autre ne partage pas mes convictions, c'est que j'estime qu'il est dans l'erreur.
Il n'est pas loin de se tromper.
C'est pour ça qu'il me semble que l'enjeu, c'est d'accepter de suspendre pour un temps le temps d'expérimenter cette conviction de l'autre. Est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose? Cette manière de faire, ces expressions de foi, sa manière de vivre, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Et accepter de l'expérimenter pour un temps, on ne prend pas beaucoup de risques. Mais par contre, le risque qu'on prend, c'est que, évidemment, on ne le fait pas qu'intellectuellement, c'est qu'on engage sa personne.
Ça peut amener loin, finalement.
Eh bien, complètement. Et c'est pour ça que vous avez raison de parler de conversion. C'est de véritables conversions. Mais encore faut-il qu'on se rencontre. Et c'est ça qui est le plus difficile.
C'est-à-dire se rencontrer de manière très concrète?
Bah oui, parce que...
Il faut susciter des temps.
Des rencontres. Parce que tant que vous ne rencontrez pas l'autre, vous ne savez pas qui il est. Je peux vous en parler, mais ça ne remplacera jamais la rencontre.
Quand vous parlez de rencontres, vous parlez des croyants, des communautés paroissiales, par exemple.
Voilà.
Et pas seulement des instances décisionnelles des églises.
Ça touche tout chrétien et toutes les églises. Alors l'idée, c'est de provoquer ces rencontres. Alors ça existe, ça. À l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle continentale, à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et de quoi il s'agit? C'est ce qu'on a appelé le forum, un forum chrétien. Le principe, il est simple. Ceux qui sont habitués à des rencontres œcuméniques entre différentes églises, mettez-vous ensemble. Et puis, votre objectif, c'est d'aller chercher des personnes des églises qui ne viennent jamais à ces rencontres. Peut-être même que vous ne connaissez pas, mais il suffit de regarder sur Internet et vous voyez qu'il y a telle ou telle église. Allez les chercher. Ils ne vont pas vouloir, parce qu'ils vont se dire « Pourquoi je viendrai là ?» Et d'ailleurs, certains sont même contre. La démarche, c'est de nouer une relation de confiance et d'amitié, parce que dans ce lieu, il faut qu'il soit, comme on dit, complètement sécurisé. On ne met pas la personne en danger. Elle est libre. C'est un contexte de bienveillance et de confiance. Alors ce qu'on fait... Ça, c'est aussi très intéressant. Quand ces gens acceptent de venir, avant, on dit, bon, qui manque à la table? Qui manque? Est-ce que dans ma région, mon quartier, il n'y a pas une église que j'ai sautée? Eh bien, alors, je vais aller la chercher. Et c'est pour ça que ça prend du temps de mettre en place ces rencontres, parce qu'il s'agit d'être vigilant et attentif à celui qui manque. Et quand il manque, il manque. Quand on fait une réunion de famille, vous organisez un grand repas, s'il manque quelqu'un de la famille, il va manquer, la chaise est vide. Hein. Est-ce qu'on raisonne déjà comme ça entre églises? C'est pas gagné, ça. Donc c'est aussi un changement de mentalité. Et la deuxième chose qu'on fait quand les personnes sont là, on les met par petits groupes d'églises différentes et on leur dit, pendant quelques minutes, vous racontez comment vous en êtes venu à croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a amené à croire? Et là, on s'aperçoit que quand ça se fait, on devient frère et sœur en Christ parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous été saisis par Christ. Qu'on soit un évêque, un cardinal, un métropolite, un simple laïc, le simple est de trop, parce qu'on est tous frères et sœurs. Et les barrières institutionnelles tombent,
parce
les barrières confessionnelles tombent. Et oui, il faut l'expérimenter, bien sûr.
Qui compte d'abord?
C'est l'expérience de voir comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Et puis, c'est pas parce que je ne suis pas dans la confession orthodoxe que je ne vais pas regarder mon collègue orthodoxe moins ou plus que moi.
Anne Lordanet, vous avez dit il ne s'agit pas de mettre les gens en danger. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sent en danger ?
Amener quelqu'un à se justifier, par exemple. Justifier son identité, c'est terrible ça. Justifier sa confession, terrible aussi. Non, il s'agit simplement de dire on est là ensemble, mais on est ensemble devant Dieu. Est-ce qu'on peut se reconnaître en étant devant Dieu comme frère et sœur ? C'est lui qui nous rend frère et sœur, c'est pas nous qui le déclarons. Mais se reconnaître, c'est déjà énorme. Donc ça suppose un contexte de confiance, de bienveillance, c'est-à-dire, et ça démarre toujours par un temps de louange, par un temps de prière et par un temps de lecture biblique. Celui qui nous rassemble est présent.
Et ça suppose aussi, donc, pour reprendre un slogan célèbre, « Venez comme vous êtes ». Il n'y a pas de condition. Vous pouvez venir, mais à condition que vous laissiez de côté telle ou telle pratique,
non, rien du
telle
tout,
ou telle croyance.
Chacun vient comme il est, et c'est ce qu'il est qui est une joie et une richesse pour les autres. L'objectif du mouvement œcuménique n'a jamais été de devenir semblable. Nous ne sommes pas des clones, et il ne s'agit pas de devenir justement semblable. On rappelle toujours que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et ça, c'est essentiel. J'ai envie de dire, c'est acquis. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on a toujours envie de ramener l'autre dans son giron, c'est normal.
Ou alors l'autre nous dérange un peu, enfin, au sens où il nous bouscule.
Ah, c'est sûr, et ce n'est pas toujours confortable. Mmh. Donc l'idée, c'est de rendre l'espace, le lieu, le climat confortable, bienveillant, pour que justement ces déplacements puissent être vécus comme quelque chose qui fait du bien. Qui élargit.
Quand on parle d'œcuménisme, Anne Lordanet, on parle souvent de mouvement, de chemin, parce que c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui n'est pas figé ni statique.
Oui, parce que c'est une histoire de rencontre. D'ailleurs, nos manières de comprendre notre foi, elle n'est pas non plus ultra figée et statique. On est bien obligé de formuler les choses autrement en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, de notre culture et des périodes. Ce qu'on va dire aujourd'hui à nos contemporains, ce n'est pas ce que les réformateurs disaient au XVIe siècle.
C'est déjà vrai pour nous à titre personnel.
Voilà.
On n'a pas la même foi à 20 ans ou à 40 ou à 60.
Voilà, donc on grandit et il s'agit aussi de justement grandir ensemble et de faire que ces liens entre nous soient de plus en plus forts pour toujours le même objectif. Être témoin de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous nos contemporains. On a tout intérêt à travailler sur ces grandes questions sociétales aujourd'hui qui sont quand même très difficiles à traiter, à les travailler ensemble, à collaborer ensemble. Quel est le poids d'une église protestante ou de l'église catholique sur la question écologique ? Elle est extrêmement faible, parce que ça concerne toute l'humanité, ça concerne toute la planète. Le faire ensemble, il y a un passage dans l'Ecclésiaste qui dit « Une corde à trois brins est plus solide qu'une corde à deux brins ». Et bien c'est ça l'idée. On aura plus d'impact, on aura plus de force, parce qu'il s'agit aussi de ne pas s'épuiser. Et on peut pas, vous allez dire, on ne peut pas s'engager non plus dans tout. Mais si, on peut quand on est ensemble. Et d'abord parce que tout se tient. Et l'idée, c'est d'arriver à se faire confiance pour justement arriver à cette collaboration.
Encore faut-il tenir à peu près le même langage ?
Alors au contraire, moi je crois que plus on a de langages différents, plus on touchera de gens. Parce que nos contemporains, ils n'ont pas le même langage. Donc qu'on ait des langages différents, des expressions de foi différentes, eh bien tant mieux. Ça c'est très bien.
Mais est-ce que ce n'est pas au contraire ce qui a constitué une sorte de contre-témoignage pendant des siècles ?
Si on la joue en concurrence. Mais si on ne joue pas la concurrence, telle forme de...
Complémentarité plutôt que concurrence.
Voilà, exactement. Parce que c'est toujours se replacer devant celui qui nous tient. Je n'ai pas dit ce qui nous tient. Nous avons des doctrines différentes. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'on a des manières aussi de comprendre qui sont différentes. Mais ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est quand on fait... C'est quand on rend ces différences-là complètement séparatrices. Et ça, c'est vraiment un contre-témoignage. Mais par contre, quand on dit, vous voyez, dans telle église, ils vont plus mettre l'accent sur une manière de prier qui est beaucoup plus silencieuse, qui est beaucoup plus...
Contemplative.
Contemplative, ce qui est très peu le cas dans les églises protestantes. Nous, on est plutôt des êtres de parole, on parle beaucoup dans nos cultes. Mais ça fait, de découvrir ce silence, cette forme de prière, ça fait un bien fou, mais encore faut-il l'expérimenter. De découvrir du côté catholique ou autre, ou orthodoxe, ce que nous faisons plus volontiers, c'est-à-dire des prières spontanées pendant les offices. Ben, ça aussi, peut-être que ça libère, mais encore faut-il l'expérimenter. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'être ensemble, mais c'est aussi important de se visiter les uns les autres, d'aller dans nos différents lieux de culte, de toutes les confessions, et puis simplement de le vivre. Pas prendre de plus de place que de le vivre avec ceux qui sont là, pour sentir, saisir et l'expérimenter aussi, mais au sens de le vivre pleinement. C'est un office.
Merci beaucoup et on se retrouve demain pour poursuivre. Merci Anne-Laure Danet.